RMC Intégral Tour.
Regarde, tu vois les traces de roues? Regarde, ça c'est du Moser, ça. C'est même du 23 mm.
Christophe Cessieux.
Tu sais ce que c'est? C'est l'Allemand qui m'a doublé quand j'avais crevé tout à l'heure.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour, route ensoleillée, route très très chaude cet après-midi entre Muret et Rodez, 198 km 500 pour les coureurs qui ont laissé les Pyrénées derrière eux et qui vont se rapprocher tout doucement évidemment des Alpes. Le dernier grand moment de ce Tour de France, ce sera la semaine prochaine, mais de très belles étapes dont celle d'aujourd'hui dont on va vous reparler avec toute l'équipe qui est en pleine forme évidemment au lendemain de cette étape pyrénéenne, à commencer par notre druide Cyril Guimard, que je salue. Bonjour Cyril.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Oui, malgré la chaleur, eh bien, nous, on est en pleine forme.
Exactement. Mais faut dire
enfin, moi.
On est à la clim. Ah bah, c'est sûr qu'il a fait une sieste de deux heures, le druide. Tranquille, avec le ventilo sur le nez, t'étais parfait.
Enfin. Eh bien, oui, mais écoute, c'est.
Non, mais il faut savoir.
J'ai aussi fait 1h10 de footing ce matin.
Ah, bravo. Tu as fait donc plus que Fredo le Devin, oui. Qui n'a fait que
c'est 12 minutes 30. C'était largement.
C'est pas mal.
J'ai fini à pied.
C'était un 100 mètres que t'as fait en 12 minutes 30 en plus. Hein. Ça va, tout va bien, Fred?
Très, très bien.
Il fait très chaud aujourd'hui.
Presque hein, chaudement, mais on est aussi bien ici, bien sûr.
Notre bar de Breton est avec nous et avec lui, comme tout commence en chanson. On va l'accueillir avec une chanson. Bonjour, Pierre Pilox.
Salut, Christophe. Je sais que Cyril va avoir maille à partir dans quelques instants avec la Sky. Et donc, cette chanson, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Et complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga, il a une drôle de tête, ce type-là. Ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça.
Voilà, oui, parce que ce matin, Georges le dira tout à l'heure, il a rencontré un Nicolas Portal de compétition qui s'en est pris au consultant, comme l'avait fait d'ailleurs Chris Froome hier, qui a mis une petite semelle à Laurent Jalabert et à Richard Virenque, que je crois. Et puis Cyril Guimard.
Cédric Vasseur.
Ah, Cédric Vasseur.
Et là, ce matin, c'est Cyril Guimard et Laurent Jalabert.
Voilà, bah chaque jour, chaque consultant en prend un peu, c'est normal. Vous avez qu'à pas l'ouvrir comme ça, messieurs. Non, mais attendez, on demande quoi au consultant? De se taire, voilà. C'est pour ça. Voilà.
Hein? Donc on va l'ouvrir.
Très bien. Georges Quirino est sur la moto RMC. Il est évidemment plein de chaleur. Mais il a l'habitude, hein, notre ancien grimpeur colombien, il a l'habitude de la chaleur. Bonjour Georges.
Bonjour, il a l'habitude, mais en tout cas tactiquement il est pas très bon parce qu'il s'est habillé en noir aujourd'hui alors que c'est la fournaise qui s'abat sur nous. 37 degrés nous dit le thermomètre de la moto, là 37 degrés 500 même. On voit pas d'ombre depuis le début de cette étape, on est sur les routes ensoleillées du Tarn. Et c'est vrai que la chaleur que l'on a déjà eu un peu hier, mais on avait été rapidement douché pour reprendre un peu de fraîcheur. Là, la chaleur aujourd'hui s'abat complètement sur les coureurs du Tour de France.
Voilà, et on n'annonce pas vraiment de pluie aujourd'hui pour les coureurs du Tour et pour les suiveurs sur leur moto. Un petit coucou à Marco, un petit coup de klaxon. Est-ce qu'il va pouvoir nous le présenter, son klaxon aujourd'hui? Non? Non, toujours pas.
Ah oui.
Non mais ça c'est pas un klaxon ça.
Ah
c'est
oui.
La corne de brume du vieux nageur Marco.
Ah non tout nouveau.
Tout nouveau.
Il le tient bien,
c'est en way.
Klaxon de son chariot hein.
Mais alors je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas klaxonner, parce que quand on lui demande de klaxonner comme ça, il est au milieu du peloton ou au milieu des échappés et dès qu'il klaxonne, personne ne comprend. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là à me klaxonner, ce gros sur sa moto? Donc voilà, pas de coup de klaxon, mais j'aimerais bien découvrir quand même le son de ton klaxon un de ces jours hein, Marco. Hein, donc avant la fin du tour, ce serait sympa quand même.
Marco, il a dit que t'étais gros.
Non, moi je n'ai jamais dit ça.
Si.
Ah, mais
on réécoutera.
Pardon, pardon.
Qui est gros?
Non, c'est pas.
Qui
non,
est
c'est,
gros?
C'est un gros guerrier, c'est un grand guerrier, costaud. Non, mais il nous martyrise, Marco aussi. Il nous martyrise tous les soirs, donc il faut faire attention à ce qu'on dit à l'antenne. Très bien. Fred, oui. Nous sommes à 4. Oui, Georges, tu voulais ajouter quelque chose?
Non,
rien à dire. Pour ta défense.
Non, je voulais juste dire qu'on avait Lance Armstrong avant pour le règne de la terreur. Maintenant, c'est Marco hein, qui nous fait le règne de la terreur sur les routes du Tour.
Le boss, évidemment. Le boss de la moto, c'est Marco. Allez, on va s'intéresser à cette course, justement, puisqu'il reste un tout petit peu moins de 200 km à parcourir, Fred. Et le premier top course de la journée, c'est parti.
RMC Top Course.
Pour cette 13e étape du Tour 2015, 198 km 500 entre Haute-Garonne, Tarn et Aveyron, des routes surchauffées avec 6 hommes qui ont pris les devants dès les premiers kilomètres. 6 hommes dont 3 Français. Cyril Gauthier qui a lancé le coup, le puncher breton de l'équipe Europcar, qui a emmené avec lui le régional de l'étape. Alexandre Géniès, coureur de la formation FDJ, qui est né et qui vit ici à Rodez. Il va avoir du soutien dans les kilomètres qui viennent. Pierre-Luc Perrichon, le Bressan de la formation Bretagne Séché Environnement, également présent, accompagné, ces 3 Français, du Hollandais Wilco Kelderman, du Belge Thomas De Gendt et d'un Australien Nathan Haas de l'équipe Cannondale Garmin. Ces 6-là comptent à 97 km de l'arrivée, un écart qui est stabilisé depuis maintenant une cinquantaine de bornes. Le peloton ne laisse pas filer ces 6 échappés. 3 minutes 40 écart stabilisé. Pourquoi ne leur laisse-t-on pas plus de champ? On aura l'occasion d'en deviser bientôt.
Juste un petit mot, il y a eu le sprint intermédiaire il y a quelques minutes.
Oui, et derrière les 6 échappés, c'est André Greipel qui est passé en tête devant Degenkolb, Cavendish et Peter Sagan, qui, Sagan, perd virtuellement le maillot vert.
Mais au profit de Greipel. Ils prennent des points malgré tout, ah, même oui. Si les échappés sont largement
oui,
devant.
Oui, il y a des points qui sont distribués
jusqu'au
15e.
Jusqu'au 15e, voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup.
Donc il y a une vraie guerre.
La guerre du vert, ouais.
Il y a la guerre du jaune, la guerre des poids, la guerre du maillot blanc.
La guerre du jaune, il y a plus beaucoup de guerre.
Il y en aura, il reste les Alpes.
On va tous se concentrer maintenant sur le maillot vert. Qui aura le maillot vert à Paris? C'est le véritable suspense de ce Tour de France. Mais non, on rigole. Pour le maillot jaune aussi, il va se passer des choses dans les Alpes. Hier, on a quand même vu des choses. On y reviendra évidemment tout au long de l'après-midi. On va aller faire un petit tour sur les autres terrains de sport. Il n'y a pas que le tour dans la vie. Il y a aussi l'escrime, il y a aussi le tennis. On va commencer par le tennis avec Eric Salio qui se trouve donc au Queen's, ce club très chic de la banlieue de Londres, où a donc débuté tout à l'heure le quart de finale de Coupe Davis. C'est pas la banlieue, c'est en plein centre de Londres.
C'est au cœur de Londres. Ah ouais,
c'est pas comme Wimbledon. Ah oui, non, mais là, c'est très très chic, Eric. Et on a réussi à refaire du gazon en l'espace de quelques semaines, puisqu'on rappelle qu'il y a eu un tournoi au Queen's juste avant Wimbledon, que la finale s'est déroulée sur un gazon un peu élimé, faut bien le dire. Et là, miracle, les Anglais sont des magiciens en ce qui concerne les jardins, évidemment, on va quand même préciser. Voilà, et le vélo, s'ils sont pas mal non plus.
Ils ont un jardinier en chef qui, je pense, est top, vraiment au top. Même si je l'ai vu un peu gronder les Français il y a 2-3 jours, parce que les Français voulaient durable, et il a dit, il a lâché un gros mot très british. Il voulait protéger son gazon. Mais ce gazon, pour l'instant, Christophe, il est béni pour nous. Parce que Gilles Simon est tout près déjà d'apporter le premier point, 6-4, 6-4, 3-0 pour le numéro 1 français, pas face au fantôme de James Ward, qui est vraiment totalement inoffensif sur le gazon du Queens. Il est anesthésié par un Gilles Simon qui ne commet pas la moindre faute directe, et James Ward, lui, il enquille les erreurs à l'appel. Donc ça va très vite, 1h33, 6-4, 6-4, 3-0 pour le numéro 1 français face au numéro 2 britannique. Bon, on attendait ce point, hein, mais il va tomber peut-être plus vite que prévu.
Ah ben c'est une bonne chose, Eric, parce qu'il faut préciser quand même que le deuxième simple opposera Joe Tsonga à Andy Murray, et que là Murray, évidemment, c'est un peu le prince du gazon, même s'il n'a pas remporté Wimbledon cette année, mais enfin a priori lui aussi est censé apporter un poids à la Grande-Bretagne, et ce sera peut-être aussi l'occasion de dimanche pour lui. Donc en fait, il faut gagner les deux autres matchs, il faut gagner le double, en gros c'est un peu ça pour aller en demi-finale.
On peut le résumer comme ça, effectivement. Andy Murray doit remporter ces deux simples. C'est vrai que tout à l'heure il va affronter Joe Tsonga, il mène largement au face-à-face, puisqu'il mène 10-2, et ils se sont affrontés 4 fois sur gazon, et à chaque fois l'Écossais s'était imposé face au manceau. Mais compte tenu du contexte, de ce que voit Andy Murray dans le vestiaire, à savoir que son pote est en grosse difficulté, qu'il n'évolue pas à son meilleur niveau, peut-être que il va pas céder à la panique, j'exagère, mais il va prendre un coup de pression, parce que là il a vraiment l'obligation d'égaliser à un point partout s'il veut préserver les chances de la Grande-Bretagne dans ce quart de finale de la Coupe Davis. Juste un mot sur l'adversaire potentiel des Bleus, parce qu'il y a une grosse surprise à Darwin. Après le crocodile qui avait effectué le tirage au sort, les Australiens sont menés 2-0 par le Kazakhstan, et on sait que le vainqueur de Grande-Bretagne France affrontera le vainqueur de Australie-Kazakhstan, et si c'est le Kazakhstan, ce sera en France.
D'accord, tu vas pas faire un petit voyage au Kazakhstan.
Pareil.
Non, c'était pas exactement.
Il y avait le voyage en Australie qui était tentant, même si au sortir de l'US Open, c'est un peu fatigant. Ouais. Sincèrement, un France-Kazakhstan, peut-être à Roland-Garros, ça c'est une petite info RMC, moi je prends.
Attends, bah oui, bah on prend tous.
C'est bien.
Voilà. Ça serait pas mal. Mais bon, il faut abattre ces Anglais. On sait qu'ils sont quand même redoutables. On en est que pour l'instant deuxième set troisième set du premier match. Mais effectivement, c'est déjà pas mal. Si Gilles Simon peut apporter ce premier point. Merci Eric. On te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi, tout au long du week-end pour suivre ce quart de finale entre la France et la Grande-Bretagne sur le très select gazon du Queens. Nous allons maintenant faire un tour à Moscou, si vous le voulez bien, pour la suite des championnats du monde d'escrime avec Rodolphe Massé, notre fin tireur à nous à RMC Sport. Salut Rodolphe.
RMC France Olympique.
Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai oublié, mais bon, chacun son tour.
Salut Christophe.
Tout va bien ?
Bonjour à tous. Tout va bien, avec peut-être une chance de médaille aujourd'hui pour les Français. On attendait beaucoup les sabreuses par équipe, puisque tu le sais, aujourd'hui, ce sont les épreuves par équipe qui décernent les premières médailles, sabre féminin, sabre masculin. Les sabreuses françaises, eh bien, en théorie, partaient favorites de leur quart de finale aujourd'hui face à la Corée du Sud. Oui, mais voilà, Cécilia Berder et ses copines se sont inclinées 45 touches à 44 en quart de finale. Elles sont actuellement en train de tirer leur match de classement. En revanche, les sabreurs, messieurs, on n'en attendait pas grand-chose parce qu'ils affrontaient, eux, la Corée du Sud. Et la Corée du Sud était championne olympique en titre. Les Français ne partaient pas favoris, mais les Français se sont imposés. 45 touches à 44. En revanche, en demi-finale, ils ont perdu. Ils ont été relativement surclassés par l'Italie, ce qui est assez logique, puisque les Italiens alignent un ancien champion olympique, un vice-champion olympique en titre et un champion du monde junior. Victoire de l'Italie assez nette, 45 touches à 39, ce qui fait que les Français disputeront à 16h30, heure française, un match pour la troisième place face à l'Allemagne, la nation numéro 1 au monde dans cette arme, le sabre masculin par équipe. Les Français qui en sabre n'ont plus goûté un podium mondial depuis 2007. Et puis parmi les autres résultats de la journée à vous signaler, c'est passé sans problème pour l'épée dame et l'épée homme. Les deux premiers tours éliminatoires ont été franchis sans difficulté. On retrouvera donc ces deux équipes, les épéistes français et les épéistes françaises, demain en quart de finale.
Voilà une bonne nouvelle, ça te fait du boulot sur la planche pour le week-end. C'est pas fini, ces championnats du monde d'escrime. On espère évidemment d'autres médailles. On rappelle que les Français et Françaises ont décroché déjà deux médailles d'argent. Merci Rodolphe, à tout à l'heure donc pour la petite finale pour nos escrimeurs. Retour ici sur la route du Tour de France, toujours très chaude cet après-midi. On vous rappelle, Georges nous disait tout à l'heure qu'il faisait 37 degrés sur la route du Tour et ils sont encore à un peu moins de 100 km de l'arrivée à Rodez, 92 km 400. On refait un point Fred, allez, 3 minutes 50 d'avance je crois, pour les hommes de tête, le top course.
RMC Top Course.
Sous une chaleur, sous un soleil de plomb aujourd'hui entre Muret en Haute-Garonne et Rodez, la capitale de l'Aveyron. Des petites routes charmantes mais qui font souffrir les organismes aujourd'hui. Plus de 35 degrés à l'ombre et il y a peu d'ombre aujourd'hui pour les échappés et le peloton. 6 coureurs à l'avant avec 3,50 d'avance. Les Français Gauthier, Géniez et Perrichon accompagnés du Hollandais Kelderman, du Belge de Ghent et de l'Australien Nathan Haas. Il reste 92 km à parcourir.
On va retrouver la moto RMC parce que c'est l'heure de la carte postale. Georges qui tous les jours nous dit ce qu'il faut retenir des paysages ou des lieux mythiques que le Tour de France parcourt. C'est la carte postale.
À la rencontre de vos régions avec ERDF. ERDF au cœur des réseaux électriques de demain.
Alors Georges, il y avait quelque chose de précis à retenir et à voir aujourd'hui sur la route du Tour entre Muret et Rodez. Qu'est-ce que tu choisirais ? Qu'est-ce que tu as choisi pour nous ?
Alors ce qui m'a retenu l'attention, et je pense que c'était un peu obligé aujourd'hui, on est sur les routes du sud-ouest, on est encore dans le département du Tarn, et mon cher Christophe, on est passé tout à l'heure dans la commune de Grolet. Et dans la commune de Grolet, on était finalement pas très loin de la ville de Gaillac. On voyait les panneaux indiquant qu'on était vraiment juste à côté. Et on a vu des panneaux avec le visage de Vincent Moscato qui est en spectacle très bientôt dans cette ville de Grolet. Notre Grolet à nous, Vincent Moscato. On a vu les vignobles tout autour de nous, les tournesols et le décor du sud-ouest avec évidemment, on a vu plein de terrains de rugby qui longeaient le long de la route avec des enfants, avec le ballon ovale. Je peux dire qu'il y a de l'accent chantant ici dans le Tarn. On entend également les cigales chanter, donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était mieux de faire une vraie carte postale comme celle-là, parce qu'avec ce soleil de plomb, c'est vrai, c'est un peu lourd pour nous cette chaleur, mais ça rend le décor absolument magnifique ici au milieu des vignobles, au milieu des tournesols qui sont tournés vers le soleil. Et évidemment, quand on voit le grand sourire de Vincent Moscato sur le bord de la route, sur les pancartes, Nous rappelle qu'on est chez lui.
Avec une sempiternelle question que l'on t'adresse et que l'on adresse également à la voiture RMC. Il est où Moscato? Ce à quoi répond Fred?
Dans ton...
Voilà. Il répond régulièrement. Et quand on te demande...
Mais on l'entend 20 fois par jour la question. Donc à un moment, il faut répondre brièvement, quoi.
Voilà. Tu réponds pas.
Alors moi, j'ai l'habitude de répondre que c'est parce que... on me demande même sur la moto, il est où Moscato? Je dis, bah oui, mais si Moscato, il vient sur la moto, on va toucher le sol, quoi, avec Marco. Ça fera trop lourd, quoi. Marco et Moscato, vous imaginez, sur la moto?
Ah ouais, ça va faire du wheeling. Enfin, on serait pas les plus lourds d'un autre côté, hein, parce qu'il y a une autre moto.
Je pense qu'il vaut mieux l'avoir en photo. Hein.
Il vaut mieux l'avoir en photo?
Oui, oui, que Danton.
Oui, oh oui, oh oui, ça c'est magnifique. Merci Georges pour la
droite ou à gauche.
La carte postale. 90 km 300. On s'interrompt quelques instants. Venez nous donner votre titre de l'épisode du jour. Il y a beaucoup moins de propositions qu'hier, messieurs. J'espère que vous avez tous réfléchi à un titre.
Comme toi, Christophe.
Comment ça?
On a réfléchi comme toi.
Aussi, ouais,
moi, j'ai rien. Je suis sec aujourd'hui.
Alors, on n'a rien non plus, alors?
Ah,
non.
Bah, si, parce que vous, les consultants sont faits pour donner des réponses aux questions qu'on se pose. Et non pas poser des questions, s'il vous plaît. Allez, tout de suite, on se retrouve sur la route du tour. L'intégral tour jusqu'à 18h pour le direct et jusqu'à 21h avec des débats. On veut-tu, en voilà. Et puis, Virginie Fupin qui nous rejoindra tout à l'heure à 18h. À tout de suite.
RMC, intégral tour. RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour derrière, les Pyrénées sont derrière nous et nous nous dirigeons maintenant vers le Massif Central, puis vers les Alpes au lieu de la résistance anti-Froome à partir de mercredi prochain pour les dernières étapes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Chris Froome va-t-il être attaqué d'ici l'arrivée dans les Alpes? A priori, c'est peu probable pour l'instant. Chris Froome, Fred, qui est tranquillement dans le peloton, bien au chaud, entouré de ses équipiers qui portent des tenues foncées. C'est pas vraiment le jour pour porter une tenue foncée, on sait que...
Oui, mais aujourd'hui, les tenues cyclistes, en tout cas pour les professionnels, sont des tenues quasiment transparentes, ternes, brillantes ou sombres, comme le sont les maillots de la Sky ou des Giant Alpecin, des maillots noirs. Je suis pas sûr que ça influe beaucoup sur la température du corps. Les matériaux utilisés aujourd'hui pour les maillots en 2015 sont autrement plus efficaces et légers que les fameux tricots en laine.
Les tricots en laine de tonton Cyril.
On a pu endosser chez Cyril à guerre à la sortie des étapes bretonnes.
Oh là, ça devait être terrible. Sur des étapes comme ça, Cyril, avec ses maillots.
On était bien protégés. Hein.
Vous étiez. Ouais. On repart au Queens, car il y a une balle de match. Oh là là, mais ça va à une vitesse incroyable, Eric, pour Gilles Simon.
Incroyable. 1h46, c'est déjà une première balle de match pour Gilles Simon qui mène 5 jeux à 1, 15-40, passing dans le filet, dommage, ce ne sera pas pour celle-là, mais il y en a une autre à venir, Christophe, 6-4, 5-1 pour un Gilles Simon totalement libéré par le gain des deux premiers sets sur un score assez tranquille face à un garçon qui, c'est sûr, n'a pas livré le meilleur match de sa carrière. Il a été un peu anesthésié par Gilles Simon qui a tissé sa toile et qui donc a récupéré les points qu'il fallait. Deuxième balle de match, James Ward, bonne première, mais Gilles Simon est parvenu à retourner dans le cours malgré le vent et James Ward va être embarqué dans un long rallye. Il est pas bien là, le Britannique, et voilà, c'est fait. Gilles Simon remporte sa troisième victoire en Coupe Davis. C'est pas beaucoup, mais celle-là, eh bien, il la fallait. 1-0 pour l'équipe de France après une victoire express 6-4, 6-4, 6-1 en 1h47 face à James Ward. Et mon petit doigt me dit que Gilles Simon sera un os coriace pour Andy Murray dimanche, à moins que Arnaud Clément décide de changer ses plans. Mais il n'y a pas de raison de ne pas donner la chance à Gilles Simon de battre Andy Murray dimanche. Mais dimanche, où en sera-t-on? Eh bien, ce sera conditionné par le deuxième simple qui débutera dans 20 minutes entre donc Andy Murray et Joe Wilfried Tsonga.
Merci Eric, et on suivra ce deuxième match avec toi. Ah, ces diables de Rosby sont en difficulté en tennis, un peu moins sur les routes du Tour de France. On en parlera tout à l'heure. Tiens, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelez le 3216 touche 6 ou envoyez le mot clé RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. La route du Tour, la 13e étape, le 13e épisode. Hier, c'était le 12e et c'était précédemment sur la route du Tour.
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Les montagnes sont toutes belles, belles, belles comme l'amour.
Belles, belles, belles comme l'amour. Alberto Contador est en train d'attaquer.
Accélération de l'Espagnol à 8 km de l'arrivée, un peu plus. Alberto Contador qui a accéléré et qui n'est pas pris en chasse. Christopher Froome laisse Richie Porte, l'Australien, et Geraint Thomas, le Gallois, lui emmener le rythme et maintenir Alberto Contador à une petite cinquantaine de mètres d'avance seulement.
Le pétard me semble un peu mouillé.
Nibali attaque.
Voilà.
Répétition. Voilà, cette fois-ci, c'est le vainqueur sortant du Tour de France qui semble un tout petit peu plus tranchant sur ce coup-là.
Oui, mais il est pareil. C'est exactement pareil.
Accélération de Nairo Quintana. Il a débordé Richie Porte qui, du coup, se gare sur la droite de la route. Nairo Quintana vient de mettre sa première banderille. Il est rattrapé à l'instant par Geraint Thomas.
Petite pique de Quintana qui a servi au moins à une chose.
Il faut en remettre une là.
À faire péter Porte. Mais bon, il en reste un autre.
Il faut en remettre une là.
Ah oui, t'es gentil toi.
Mais oui, mais si, mais c'est le meilleur grimpeur du monde.
Attaque de Froome.
Accélération de Chris Froome. Nairo Quintana, le maillot blanc qui est collé à sa roue, à Christopher Froome. Derrière, ça ne réagit pas. Ils sont les deux Contador. Contador arrive à recoller. Quintana qui accélère sur la droite de la route, sous la banderole des trois derniers kilomètres. C'est Chris Froome qui est obligé de réagir. Le maillot jaune qui tente de revenir. Contador dans la roue.
Alors que pour Ito Rodriguez, Fred va en terminer dans quelques instants.
Oui, l'Espagnol de 36 ans qui envoie des baisers à la foule. Il peut lever les bras en V et hurler sa joie. Deuxième victoire en deux semaines.
RMC Intégral Tour.
Voilà, la victoire de Ito Rodriguez était donc sur les routes du Tour hier. Deuxième victoire pour l'Espagnol et des petites banderilles que les adversaires de Chris Froome ont tenté de planter dans le dos du Britannique sans parvenir à le faire vaciller de son trône et lui enlever la moindre texture de son beau maillot jaune qui lui va si bien au teint. Alors, aujourd'hui, 13e étape, messieurs, on attend évidemment vos propositions. Vous aussi, sur le hashtag RMC Live ou au 3216, venez nous faire des propositions. Vous êtes moins inspiré qu'hier. On va voir si la Dream Team est un petit peu inspirée. Certains ont réfléchi. On commence évidemment par le druide qui, lui, bosse toute la journée. Dès le matin, dans la voiture, il est là à réfléchir à tous les jeux de mots vaseux qu'il pourrait nous faire sur le titre du jour. Hier, c'était Bye Bye Bye, comme l'amour. Aujourd'hui, une chanson? Non, pas de chanson.
Non, pas une chanson, non. J'avais deux possibilités. Je vous en ai donné une, donc je vous la laisse malaxer. Non, l'autre, c'est peut-être le véritable intérêt de cette étape. C'est le verre est dans le fruit.
Le verre est dans le fruit. Oui, bah, précise ta pensée.
Bah, la guerre au maillot vert. Ah, puisqu'ils se battent à un point, deux points. Ben oui, oui, il faut suivre.
Non, ça veut dire que pour toi, aujourd'hui, ça va se résumer à une bagarre de sprinteurs.
Ben c'est parti, là.
D'accord. Hein? Le verre est dans le fruit, nous dit Cyril Guimard. C'est pas mal, c'est pas mal.
Oui, oui, puisque André Greipel, on le rappelle, est repassé devant Peter Sagan, le Slovaque, lors du sprint intermédiaire de la journée. Ces deux-là, Greipel l'Allemand et Peter Sagan, sont séparés d'un seul petit point. Et donc l'arrivée ici à Rodez devrait les départager. C'est vrai qu'il y a un vrai suspense pour ce classement-là.
Donc, ton titre ?
Geniez qui fait partie de l'échappée. Geniez s'offre Rodez haut la main. Lui qui est originaire de Rodez, le coureur de la FDJ, qui est membre de l'échappée avec les Français Gauthier et Perrichon, le Hollandais Kelderman, le Belge De Gendt, l'Australien Nathan Haas.
Mon cher Pierre-Yves Leroux, Pilux, il est un peu sec. Il avait une belle chanson pour commencer, mais au niveau du titre, c'est...
Une petite hésitation, Gauthier enfin, tout simple, parce qu'il est passé souvent à côté, ou Rodriguez rime avec Rodez.
Encore ?
C'est osé !
C'est dur l'arrivée quand même, hein ?
Oui, exact.
Ouais, mais enfin, il va pas gagner tous les jours non plus.
Non, mais attends, c'est du 10% l'arrivée,
ouais,
hein.
Ouais. Non, c'est sûr. Alors que ça, on s'en était pas. Alors hier, d'ailleurs, dans la voiture en rentrant de l'étape, tu nous disais certains cyclos m'ont prévenu qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la dernière bosse n'avait pas été répertoriée, Cyril. C'est vrai qu'on l'a découverte un peu tout à l'heure en arrivant. C'est du costaud, hein.
Oui, c'est vrai. Des spectateurs qui redescendaient de l'arrivée hier. Et comme on était nous aussi bloqués dans la file des voitures, et ils sont de Rodez et ces côtes, ils les font, c'était des cyclos bien sûr, et ils m'ont parlé donc de cette dernière bosse, comprenant pas qu'elle n'était pas répertoriée, parce qu'en fait elle monte à peu près 4 km à 5%, et pour eux elle est aussi dure, sinon plus difficile que d'autres que nous avons sur le parcours, d'autant qu'elle est quand même proche de l'arrivée.
Mm-hmm. Lucho a une idée pour le...
Oui, enfin peut-être. Ouais. Peut-être. Je pense que c'est la spécialité du coin, donc les favoris Aligoté à Rodez.
Ah, mais c'est pas mal, les favoris Aligoté.
Aligo.
Aligo,
évidemment,
voilà.
c'est la spécialité.
Aligoté à Rodez.
On est déjà, oui, on est dans l'Aveyron, c'est.
Spécialité de l'Aveyron,
c'est la spécialité,
ouais.
De, c'est la spécialité de l'Aveyron.
Aligoté à Rodez, très bien. Georges Quirino sur la moto.
Et si la chaleur faisait mal aux organismes aujourd'hui, pourquoi pas à certains favoris du tour? Et si ça bougeait un peu dans le final, je sais pas. Est-ce qu'il va pas y avoir des dégâts aujourd'hui à cause des 38 degrés qu'on a en ce moment sur la tête? Donc pour cette étape soi-disant de transition, moi je dirais le titre sans transition.
Sans transition, nous dit notre ami Georges Quirino. Moi je vous je vais aller dans le sens de Fred. Je niaise, un sacré balèze à Rodez.
Oui.
Ouais, et alors d'ailleurs, vient de tomber également Pierrick Mallet sur le hashtag RMC Live qui nous dit Rodez pour un balèze. C'est encore plus rapide, plus efficace. On a également Seb qui nous dit Géniez file à l'anglaise sur la route de Rodez.
Joli. Ah, donc
ça tourne évidemment autour de Géniez parce que c'est le régional de l'étape, on vous le rappelle. John David nous dit une stratégie Giants pour la Sky. Et puis Seb, autre proposition qui nous dit dans la fournaise de Rodez, le poton va cuire comme des merguez. Vincent, s'envole les baroudeurs, mais rôde les sprinteurs. Ou encore Clément Bigois qui nous dit le Rodez haut de Sagan, le Rodez haut, le rodéo. Voilà pour les quelques propositions. N'hésitez pas, si vous avez de bonnes propositions, je vous les lirai à l'antenne. Voilà, mais finalement on a eu pas mal de petites propositions. Messieurs dames, c'est donc aujourd'hui la 13e étape. Ce matin, il s'est passé des choses. On va tout de suite ouvrir le combat de boxe qui a donc opposé Nicolas Portal dans le coin gauche à Cyril Guimard. Oui. Pam pam. Voilà, Cyril Guimard, champion de Bretagne des années 20 contre Nicolas Portal. Maillot noir
par
Cyril Guimard qui a donc osé s'attaquer, osé remettre en question les prestations, les performances de Chris Froome l'autre jour. Alors qu'est-ce que tu disais exactement sur Chris Froome exactement? Et sur l'équipe Sky, parce qu'on ne sait plus exactement, parce que des choses ont été dites. On sait que depuis quelques jours la polémique est née entre d'un côté l'équipe Sky qui a répondu d'ailleurs par l'intermédiaire de Chris Froome hier qui s'en est pris à Laurent Jalabert et à Cédric Vasseur qui ont commis l'outrage d'émettre des petites réserves sur la prestation de Chris Froome. Toi aussi, faut bien le dire, non? Non, tu reviens sur ce que tu
non,
disais.
Non, alors trouve-moi.
Alors je ne sais pas.
Trouve-moi une phrase où je remets en cause Chris Froome. La seule chose que je dis, il a tué le tour. Ça n'a rien à voir.
Quand tu dis par exemple que ce qui pourrait le priver d'une victoire sur le tour, c'est une chute ou un contrôle positif.
Oui, non, mais là ça fait partie, c'est dans le débat que c'est prononcé ça.
Ah, j'ai sorti les mots du contexte, pardon.
Lorsqu'on est dans un débat et qu'on s'allume les uns les autres, on se dit qu'est-ce qui peut rester. Bah oui, effectivement, mais c'est déjà arrivé.
Oui, mais tu reconnais que tu as prononcé ces mots et ils sont arrivés aux oreilles de Nicolas Portal.
Oui, non, mais j'ai dit une chute, mais j'ai pas dit qu'il se dopait.
Non. Tous les coureurs et même nous-mêmes, si on se met à faire du sport en compétition, on peut être contrôlé positif. Oui, ça fait partie des probabilités.
Sauf qu'il faut prendre quelque chose quand même.
Bien sûr.
Alors qu'est-ce que tu qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je me souviens effectivement.
Non, mais il faudrait passer le son de Portal parce que.
On va l'écouter, mais dans quelques instants, parce qu'on va d'abord s'arrêter un peu sur le bord de la route pour satisfaire un besoin naturel, et ensuite on va écouter Nicolas Portal qui a rencontré Georges Quirino ce matin. En gros, qu'est-ce que tu dis? Disais sur la formation Sky.
Tu te
posais la question de savoir ce qu'il y avait dans les camions, dans les motorhomes qui encombrent les parkings.
Alors, il suffit de reprendre exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait énormément de rumeurs, et c'est pas moi qui l'ai inventé, et qu'il y avait ce problème des bus qui étaient sur le parking. On savait qu'en Italie, c'était Richie Porte qui dormait à l'intérieur, et tout le monde se posait énormément de questions. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé les questions. À quoi servent ces bus? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces bus? À quoi correspond un tel investissement? Eh bien, ce serait bien qu'on le sache. Voilà. Et donc, il appartenait ensuite, et ce qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs, et je demandais de la transparence. À partir de ce moment-là, Dave Bradford a dit, écoutez, si vous voulez venir prendre un thé à l'intérieur du... C'est-à-dire que je leur tendais une perche, tout simplement pour qu'ils s'expliquent. Je ne les ai pas accusés de quoi que ce soit. J'ai dit aussi que on a dit à un moment qu'il était possible pour. Est-ce qu'il n'y a pas des chambres hypoxie à l'intérieur? Tout ça, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais je l'ai dit sous forme de questions très précises. Et ils ont répondu en partie, et ça c'est très bien.
Très bien. La réponse de Nicolas Portal, ce sera dans un instant. Juste un petit mot, Georges, parce que Cyril Gauthier vient de s'arrêter, me semble-t-il, dans le groupe d'échappée.
Exactement, crevaison roue avant pour le petit breton Andy Flickinger, son directeur sportif, qui s'est précipité derrière lui pour lui apporter le soutien mécanique. Voilà, il vient de repartir à l'instant, le français, dans cette phase un petit peu descendante. Il va essayer de regagner sa place dans l'échappée là, et bien aidé par le coffre de sa voiture pour revenir. Cyril Gauthier qui vient donc d'avoir un petit souci mécanique.
Très bien.
Cyril Gauthier dépanné par Michael Pichon, pour ceux qui se souviennent de ce coureur qui était professionnel chez Jean-René Bernodeau, notamment dans l'équipe Bonjour.
Voilà une bonne information. 15h40, on se retrouve dans un instant pour la suite du combat de boxe entre Cyril Guimard, directeur sportif de Bernard Hinault, de Laurent Fignon et de la Dream Team RMC, et dans le coin opposé, Nicolas Portal, le directeur sportif de Chris Froome. A tout de suite.
RMC, 18 septembre 2015, coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de rugby en Angleterre.
Voilà, d'autres propositions qui tombent les unes après les autres pour le titre de l'épisode du jour. Amphibie nous dit les grosses cuisses sont rodées, avec un S, mais en fait sont rodaises, on pourrait le dire aussi. Bobby nous dit à Rodez, galopin a dompté la fournaise. Léo nous dit une deuxième fois Villerme-Ose.
Eh oui, c'est un final qui pourrait convenir au puncher d'AG2R la mondiale.
Sikiri nous dit fini de se roder, de se Rodez.
Bon.
Ou encore Amphibie, la bataille des grosses cuisses. Denis, Rodez, pas rodez pas autour de Froome. Voilà, ça c'est pour Cyril Guimard. Ça lui apprendra à lui. Fred, point complet sur la course. Nous sommes à quoi? Un peu moins de 80 km de l'arrivée.
77 km exactement pour les 6 hommes de tête qui se sont extraits du peloton, on le rappelle. 6 km seulement après Murray. Départ ce matin pour 198 km. Sous un soleil de plomb, il fait très très chaud aujourd'hui, plus de 35 degrés sur les routes de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aveyron. Arrivé à Rodez tout à l'heure, 6 hommes en tête, dont 3 Français: Cyril Gauthier de l'équipe Europcar, Alexandre Géniez, le régional de l'étape, originaire de Rodez même, coureur de la FDJ, Pierre-Luc Perrichon, le Bressan de la formation Bretagne Séché Environnement. Ils sont accompagnés, ces 3 Français, par le Hollandais Wilco Kelderman, qui découvre le Tour au sein de la formation Lotto Jumbo, Thomas De Gendt, le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal, et puis un Australien qui joue de la guitare à 16h. Il s'appelle Nathan Haas et il porte le maillot vert fluo de l'équipe Cannondale Garmin.
Il n'est pas 16h encore.
Ah, c'est pas 16h, il joue pas encore de guitare, Nathan Haas, qui joue de la guitare à 16h.
Ah, à 16h.
Et oui, c'était le trait d'esprit de Pierre-Yves Leroux à 15h43.
À 15h43. Ses neurones n'ont pas tous été grillés encore. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Intégral Tour. 13e étape
RMC,
aujourd'hui.
C'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour est la 13e étape de cette grande boucle 2015 sous la chaleur des routes du sud-ouest entre Muret et Rodez. Il reste un peu moins de 75 km à parcourir et nos hommes de tête ont quasiment 4 minutes d'avance. Ça sera compliqué quand même, Cyril, d'aller au bout, parce que derrière les équipes de sprinteurs veillent. Elles n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent d'ici l'arrivée à Paris. Donc aujourd'hui, bon, même si l'arrivée, le final est compliqué pour des sprinteurs classiques type Greipel, par exemple. Hein.
Pour Greipel, oui, mais elle fait 500 et quelques mètres, donc ça se passe. Il y a 80 mètres qui sont plats après l'ascension. Alors, les sprinters, normalement, ça passe. Hein. Il faudra d'abord qu'ils soient déjà à 5 km de l'arrivée. Mais c'est des sprinters un petit peu différents. La hiérarchie est différente sur ce type d'arrivée.
Il est un peu trop lourd.
Greipel, effectivement, est un peu lourd. Mais l'explosivité permet de passer. Sagan, à mon avis, est quand même supérieur sur ce type d'arrivée. De Gendt-Kolb également. On a Coquard qui, sur ce genre d'arrivée, peut très bien faire tilt. Pour l'instant, il a un équipier à l'avant, donc c'est pas son équipe de travailler. Mais Cavendish, c'est peut-être un petit peu difficile.
Très bien, mais on parlera de l'arrivée d'étape tout à l'heure, évidemment, on aura un peu plus le temps, les paris et tout ça, on est encore loin de l'arrivée, 75 km, mais je vous le disais, il y a le combat du siècle, donc, entre Nicolas Portal et Cyril Guimard. Georges Quirino était l'arbitre ce matin, il est allé à la rencontre du directeur sportif de la formation Sky. Alors, Georges, dans quelles circonstances Nicolas Portal a livré le premier round de ce combat?
Ça, c'était le contexte. Il y a eu évidemment les déclarations de Chris Froome hier à l'encontre des consultants de France Télévisions. Vous savez que Laurent Jalabert a ouvertement s'est interrogé sur les performances de Chris Froome dans la montée de la Pierre Saint-Martin. Et Cédric Vasseur qui s'est plaint que l'on n'ait pas regardé d'un peu plus près le vélo de Chris Froome après cette étape, sous-entendant qu'il pouvait y avoir un vélo mécanique là-dessous. Chris Froome a
répondu
que c'était culotté de la part. Dopage mécanique, tout à fait. Chris Froome a répondu que c'était un peu culotté de la part de ses consultants et notamment de Laurent Jalabert qui a été rattrapé par quelques histoires. On allait donc aller voir Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky, ce matin pour savoir ce qu'il en était un peu dans l'équipe, comment est-ce que ça avait été reçu dans la formation britannique, toutes ces phrases de consultants. Pourquoi je suis allé voir Nicolas Portal en plus? Parce que il y a deux jours, déjà après l'étape de la Pierre Saint-Martin, il avait déjà été très touché, blessé par ce qu'avait pu dire Cyril à l'antenne, hein, chez nous sur RMC, notamment sur la phrase que vous avez rappelée tout à l'heure, si Chris Froome va gagner le tour, sauf en cas de chute ou de contrôle positif. Il n'aimait pas trop le sous-entendu un peu gros selon lui là-dedans. Bah, donc il a voulu répondre, Nicolas Portal. Il ne voulait pas répondre sur cette polémique il y a deux jours. Bah, ce matin, on a ouvert les micros et il est allé tout seul. On ne l'a pas piégé. Il voulait en parler ouvertement. Nicolas Portal, on l'écoute.
Ça agace vraiment, en fait, parce que pour moi, ces gens-là sont en général des anciens coureurs, des anciens managers, donc des anciennes personnes du milieu qui sont censées connaître ce sport. On est bien d'accord. Et s'ils ont cette place maintenant, ce job, ce travail, ils gagnent leur argent grâce à ça, leur vie grâce à ça. C'est parce que j'imagine que ces grandes radios ou ces grandes télés les prennent comme consultants parce qu'ils ont une expérience, une certaine science. Parce que certains appellent ça, ils ont la science, hein, c'est clair et net. Le problème, c'est qu'ils balancent des choses, c'est clairement balancer des choses sans aucune preuve. Et ils font pas derrière une investigation pour comprendre vraiment à quelle vitesse a été monté. Donc en fait, ils sont juste là, ils font du gala. Je veux dire ça, c'est juste, ils balancent des infos en disant, ah oui, parce que le style fait que Chris, il a des cadences très très élevées, il a pas très beau sur un vélo, il balance des choses sur les campeurs en disant qu'on dort dans des caisses en oxygène, alors que je dors dans des campeurs. Vous pouvez venir ce soir, il y a pas de problème. Vous pouvez venir dans les trois quand vous voulez, même maintenant si vous voulez. Il y a pas de toutes ces conneries, les coureurs dorment dans les chambres des hôtels. En fait, ils balancent des choses à l'antenne, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a plein de gens, il y a des millions de personnes qui sont à l'écoute, ou des milliers en tout cas, et le mal est fait, quoi. Pour moi, ces gens-là devraient faire de l'investigation, puisqu'ils sont des spécialistes, comprendre. Moi, je sais, nous, on sait, les autres équipes savent exactement à quelle vitesse s'est montée hier l'ascension. Donc, on sait si c'est normal ou pas. Je peux vous garantir que c'est à 100% normal. Je vais pas vous donner chiffres parce que ça va balancer dans la presse, mais j'aimerais bien demander à Laurent, Jalabert ou à Cyril Guimard, pour lui, où il pense, où sont les 9 coureurs hier par rapport à quand on faisait du vélo. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'ascension? Parce que c'est très clair. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ils ne sont pas capables d'utiliser les data, les chiffres, ils ne comprennent pas ça. Mais par contre, ils sont assez intelligents, parce qu'ils se pensent déjà pour balancer des conneries. Et ça, c'est grave. Quand il y a des tricheurs, c'est clair qu'on veut les dénoncer, il n'y a pas de raison de les protéger. Mais quand on fait les choses comme il le faut, je pense qu'il faut valoriser le sport, parce que derrière, il y a nos enfants, il y a mon enfant, et moi, ça m'agace quand j'entends un gars sur RMC qui est censé être un scientifique ou un ex, ouais, un grand scientologue un peu du cyclisme, qui connaît toutes les stratégies, qui était un ancien manager, qui balance comme ça, ouais, parce qu'il voit à la télé derrière son écran que bon, y a un truc qui cloche pour lui, mais ça cloche parce qu'il comprend plus le vélo, c'est tout, quoi. Et c'est dommage. C'est juste ce que je pense. Les chiffres, regardez, faites-le. Regardez les chiffres. Hier, on a eu deux Français qui sont montés quasiment à la même vitesse qu'Armstrong il y a les deux dernières éditions quand il a gagné. Alors ça veut dire quoi, ça? Si on suit Laurent Jalabert et d'autres, je pense à Cyril, ça veut dire que c'est bizarre que Pinot, tout d'un coup, ait été 25% plus fort en quelques jours. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est un Français, peut-être.
Voilà, accusation de Nicolas Portal. Pas de langue de bois dans la bouche du directeur sportif de la Sky. Fred, oui.
Oui, Nicolas Portal qui évoque avec insistance les chronos à comparer selon les époques. Est-ce que Froome monte plus vite qu'un certain Lance Armstrong à une époque? Je suis allé rechercher le temps de la montée du groupe maillot jaune hier dans le plateau de Bay. Le plateau de Bay, il a été remporté par Lance Armstrong en 2004. Il a été remporté par Alberto Contador en 2007 au terme d'une séance de sprint stratosphérique contre Michael Rasmussen en 2007. Le record de la montée du plateau de Bay reste la possession de Marco Pantani en 98, un peu plus de 43 minutes, 43-28 exactement. Contador et Rasmussen au terme de leur séance de sprint 44-17. Beaucoup plus loin, Lance Armstrong en 45-37 en 2004. En 2015, hier, au plateau de Bay, Valverde a monté. Valverde, qui a terminé premier du groupe maillot jaune, a monté en 45-37, exactement comme Armstrong en 2004. Chris Froome en 45-38, une seconde de plus que Lance Armstrong.
Mmh. Voilà donc pour les chiffres, mais évidemment, ça dépend aussi de la stratégie qui se déroule dans la montée. C'est pas toujours la même chose lorsque l'attaque se fait au pied du col ou au milieu.
Parler de data, de chiffres. Ouais. Voici les chiffres. Brut.
D'accord. Très bien. Cyril, est-ce que tu as une réponse à apporter aux accusations de Nicolas Portal, qui te considère comme un grand scientologue du cyclisme? Voilà, bon.
Je ne savais pas que j'étais dans une secte.
Il n'a peut-être pas utilisé le mot par hasard. Hein. Il voulait peut-être dire scientifique, il a dit scientologue, peut-être à dessein.
Il faudra lui poser la question.
Alors, Cyril, des choses à répondre pour ta défense ou tu prends l'Uppercut et tu vas au tapis.
La première chose, c'est qu'il n'écoute pas ce qu'on dit. Et que vraisemblablement on lui rapporte des propos qui dans ma bouche n'ont jamais existé. Quand il parle par exemple des puissances ou des fréquences de pédalage, il oublie seulement une petite chose. C'est que s'il avait écouté hier après-midi, j'ai été le seul consultant à défendre Geraint Thomas par rapport au fait qu'il était pistard et que maintenant il grimpe l'école. Et j'ai même expliqué pourquoi. S'il avait écouté, il n'aurait pas tenu les propos qu'il vient de tenir. Il y a 2 ans, dans la montée du Ventoux, quand tout le monde s'est attaqué aux accélérations de Froome, j'ai été le seul à contre-courant à défendre Chris Froome et à ne pas remettre en cause les fréquences de pédalage, et je ne les remets pas en cause. Il y a la montée qui a été qui est retombée là sur la montée d'il y a 2 ans du Ventoux, qui est ressortie sur Internet et où on voit par exemple les fréquences cardiaques. Je suis le seul à avoir dit cela ne me choque pas et je trouve ça tout à fait logique, et on ne peut pas les commenter pour une raison très simple, c'est que une fréquence cardiaque, si on n'a pas d'autres paramètres qui nous permettent d'eux, on ne peut pas dire que cette fréquence cardiaque est anormale. Et je l'ai dit. Alors, je ne parle jamais des puissances, je ne parle jamais des fréquences cardiaques. Donc, si, et il peut vérifier, puisque je crois qu'on doit pouvoir podcaster, et il ira voir, il verra que Guimard ne parle jamais des puissances, ne parle jamais des fréquences cardiaques, parce qu'elles sont beaucoup trop complexes, et déjà c'est difficile de les comprendre quand on est un spécialiste. Essayez de l'expliquer au grand public, vous allez vous gratter derrière l'oreille un moment, quoi. Donc je n'en parle jamais. Alors je sais pas où il a été prendre ça, qui lui a rapporté ça, je n'en sais rien. Alors que j'ai dit, parce que j'étais un peu déçu que ses adversaires ne soient pas plus proches là-bas à la Pierre Saint-Martin, et j'ai dit effectivement, il a tué le tour, mais il a tué le tour pour nous, mais pour l'ensemble des Français, l'écart est important. Moi, j'ai vu des coureurs faire des écarts aussi importants et que j'ai jamais remis en cause, et je ne remets pas cela en cause. Alors, il faudra que notre ami Nicolas Portal, et s'il veut, moi, je veux bien en parler avec lui, s'il trouve des déclarations où je remets en cause les fréquences cardiaques, les puissances, les vitesses, là,
alors,
je suis désolé.
Alors, l'invitation est lancée à Nicolas, s'il a envie de venir un soir entre 19h et 20h ici, ou même au téléphone, ou pourquoi pas dans son hôtel, Pierre-Yves.
Je lui ai envoyé un texto pour qu'il écoute l'émission.
Mais voilà.
J'espère qu'il l'a écouté.
Et je pense
comme
qu'il l'a
ça,
écouté. Et en tout cas, Nicolas, si tu nous écoutes, c'est vrai qu'on aimerait bien que vous puissiez en discuter.
Moi, je suis pas fâché avec lui. La seule chose que je veux dire, c'est que entendre quelqu'un qui te rappelle ce que quelqu'un d'autre a dit.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est ce que dit également Cédric Vasseur. On continuera évidemment ce débat après les infos de 16h parce que Cyril, tu n'es pas le seul à avoir été attaqué. Cédric Vasseur, consultant de France Télévisions, ou encore Laurent Jalabert. On écoutera même la réaction de Laurent Jalabert qui veut pas polémiquer. Et Cédric Vasseur a également répondu aux attaques de la formation Sky. Mais tout ça, ce sera après les infos de 16h qu'on va laisser passer. On revient rapidement, le plus rapidement possible, sur la route du Tour. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.